Bienvenue sur Fréquence Plus dans l'émission La Santé Dente. Et oui, nous avions prévu de faire l'émission à 20h, mais l'artiste qui devait venir n'a pas trouvé de moyen de locomotion, donc déjà de venir de Bruxelles, donc ça ne s'arrangeait pas, donc on lui refixera une date ultérieurement. Alors aujourd'hui avec... Bonjour Patricia tout d'abord.
Bonjour Betty.
Comment tu vas ?
Très très bien.
Voilà, aujourd'hui avec notre nutrithérapeute, on va vous parler de l'obésité, du diabète et alors bien d'autres choses par rapport à l'alimentation.
Eh bien oui, en fait aujourd'hui on va parler des sucres, mais quand on parle des sucres, en fait on va parler d'une famille de sucres et donc on va parler des glucides. Alors on va regarder un petit peu l'impact que les glucides peuvent avoir sur la santé, voir s'ils sont nécessaires ou pas. Donc ça, ça va être un petit peu l'objectif aujourd'hui de cette émission. Et bien entendu, on approche de Saint-Nicolas.
Et oui.
Alors on va donner quelques petits conseils à Saint-Nicolas.
Oui, d'accord.
D'accord ?
Oui.
Alors quand on parle de glucides, en fait, et ou de sucre, tout le monde pense aux morceaux de sucre qu'on met dans sa tasse de café,
oui,
ou le sucre qu'on rajoute dans les pâtisseries et tout ça. Mais en fait, le sucre se trouve dans plein d'autres aliments. Par exemple, tu as du sucre dans les fruits. Donc
oui,
ça, c'est ce qu'on appelle le fructose. Et le sucre, le morceau de sucre que tu mets dans ton café, là, ça s'appelle du saccharose.
Oui.
Alors, tu as aussi du sucre dans les produits laitiers. Et donc ce sucre-là,
c'est incroyable, hein,
ça s'appelle le lactose. Je ne sais pas si tu as remarqué, saccharose, lactose, fructose, donc tous les mots en ose, mais ce sont des sucres.
Ah oui.
Donc tu vois déjà, ça peut aider quand tu regardes les étiquettes.
Oui.
Si tu vois le mot ose, bah, tu sais déjà que tu as des sucres.
C'est alors, vrai qu'on voit encore bien pour des bébés, par exemple, de l'alimentation pour les enfants ou quoi, sans lactose. Donc, s'il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Alors.
Voilà. Disons que c'est parce que ça, c'est plus par rapport à l'intolérance au lactose.
Oui.
Mais ici, donc, quand on parle du lactose, on va penser donc, au sucre et l'impact que ça peut avoir sur la santé. Et alors, il y en a un autre qui aussi fait partie des glucides. En fait, c'est ce que tout le monde connaît sous le nom de féculents.
Oui.
Donc, ce sont les aliments qui sont très, très riches en amidon.
Donc, comme les pommes de terre, les pâtes.
Voilà, tout ça. Oui, tout à fait. Les légumineuses, hein, comme les pois chiches, les lentilles, tout ça, contiennent aussi des bons glucides.
Oui, d'accord. Alors, mais est-ce qu'on a besoin nécessairement de sucre ?
Alors, oui et non.
Ah.
Alors oui, mais en fait, les glucides, si tu veux, les sucres, ou la petite molécule, quand elle est digérée, qui est le glucose, en fait, on en a besoin parce que nos cellules, elles fonctionnent grâce au sucre. Donc, c'est vraiment le carburant de nos cellules.
Oui.
Et principalement notre cerveau qui a vraiment besoin de beaucoup de glucides. Donc oui, on a besoin de sucre. Mais quand je parle de sucre que l'on a besoin, moi je parle des sucres contenus dans les aliments. Donc un petit peu comme je viens de t'expliquer ici, au niveau des fruits, au niveau de certains féculents. Donc voilà. Mais on n'en a pas besoin quand on en rajoute. Donc tout ce qui est sucre ajouté, ce n'est pas nécessaire. On a, avec, rien qu'en amenant avec l'alimentation, on a le quota de sucre qui est suffisant pour pouvoir fonctionner dans
la journée. Donc c'est pour ça alors que les sportifs, ils mangent des choses, voilà, beaucoup de pâtes et tout, pour avoir assez de sucre dans le sang pour pouvoir tenir le coup.
Tout à fait, c'est vraiment ça. Et donc ça, c'est la grosse différence entre une personne qui fait sa petite activité physique, qui fait son travail, tout ça. Mais elle n'a pas besoin de se rengorger de sucre. Par contre, un sportif, comme il va se dépenser beaucoup plus, ben lui, il aura besoin de plus de glucides. Et alors, c'est vrai qu'on travaille plus à ce moment-là sur des glucides plus lents, comme les féculents.
Mais alors, pourquoi quand on mange des pâtes, parce que ça nous arrive, les sportifs aussi, on a faim une heure après? C'est parce qu'on n'élimine pas assez vite le sucre qu'on a accumulé?
Alors, ça, c'est un... On va expliquer un petit peu comment le sucre est digéré, peut-être pour comprendre. Donc, au départ, quand tu prends un aliment donc qui contient du sucre, ben, tu vas le mâcher, tu vas l'avaler, il passe dans ton estomac, et tout de suite après, ben, il y a des enzymes qui vont permettre de le couper, et ce sera la petite molécule de glucose qui va passer dans le sang. Et donc, le glucose passe dans le sang, Donc, il va commencer à augmenter dans ton sang. Mais notre organisme, il n'aime pas justement les augmentations et les diminutions. Alors, pour pouvoir réguler tout ça, eh bien, il y a un organe qui est important, c'est ce qu'on appelle le pancréas, oui, qui va lui sécréter de l'insuline, qui est une hormone, qui va justement donner l'ordre, ou en tout cas ouvrir des portes au niveau des cellules pour que le sucre puisse entrer dans les cellules. Et donc, quand on mange des choses très sucrées, comme par exemple, imaginons un petit déjeuner matin, tu viens avec ton croissant ou ton
petit pain chocolat, voilà, un jus d'orange.
Eh bien, tu viens avec un tsunami de sucre. Et donc, du coup, ton sucre va passer, donc ton glucose va passer dans le sang. Et l'insuline va monter très, très, très fort. Et quand elle monte très fort, après, ben, ton sucre va diminuer aussi très fort. Et on a ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et ça, cette hypoglycémie réactionnelle, c'est plus ou moins une heure et demie après avoir mangé. Et ça te donne des fringales, envie de manger,
ah oui,
tremblement,
oui,
et voilà.
Tremblement, voilà, malaise, mal à tête, la torgnole, comme on dit. Voilà. On peut même arriver à tomber dans un coma. C'est rare, mais
c'est
bon.
Plus commun, c'est plus quand tu es diabétique et que tu te piques avec trop d'insuline. Alors à ce moment-là, c'est
parce que je ouais, sais que moi, bon, l'hypoglycémie, j'en ai fait il n'y a pas encore longtemps. Hein, voilà, et c'est vrai qu'on est mal, on commence à trembler et on s'énerve.
Voilà, donc ça crée un peu de l'agressivité. Et donc, éventuellement, au travail, ce que tu peux faire, c'est demander à ton chef s'il est, quand il est un peu agressif, lui demander ce qu'il a mangé au matin. Lui suggérer de manger plutôt des protéines au petit déjeuner.
Donc, bon, t'as entendu, Joël. Mais il n'est jamais de mauvaise humeur. Je dois dire que on a un bon président. Alors, mais voilà, là, donc tous les sucres provenant de sources naturelles. Et en même temps, on n'a pas tellement besoin de sucre non plus.
Non, donc enfin, en fait, comme je disais, on ne doit pas rajouter de sucre et. Mais comme il n'y a rien à faire, on en rajoute quand même toujours un petit peu, ben l'OMS a fixé un quota et normalement, on peut consommer par jour 25 grammes de sucre par jour. Quoi.
Oui.
Mais on y est très vite. Hein. Par exemple, les enfants qui mangent leur petit bol de Kellogg's le matin, ben ils mangent quand ils mettent 100 grammes de Kellogg's, ben ils ont déjà 40 grammes de sucre. Donc ils ont déjà dépassé leur quota rien qu'avec un petit peu de céréales comme ça, les mauvaises céréales, je dis, hein, oui, celles, oui, qui contiennent du sucre.
Ou alors même dans le coca. Un verre de coca, c'est équivalent à 25 grammes.
Voilà, donc avec ton verre, tu as déjà...
assez de sucre pour la journée.
Tu as déjà ton quota, quoi. Tout à fait. Oui, oui.
Alors, Patricia, revenons un peu à notre sucre. Alors, aujourd'hui, quasi tous les plats préparés contiennent du sucre ajouté. Donc, même si on ne t'y attend pas, le jambon.
Oui, et donc ça, c'est un petit peu bizarre. Tu te
une
dis,
arnaque, en somme.
Pourquoi mettre du sucre dans le jambon?
Oui, parce que c'est une charcuterie.
Oui, tout à fait. En fait, en rajoutant du sucre, bah, d'abord, ça coûte moins cher que les matériaux plus nobles. Donc déjà, ça permet de tricher un peu d'une certaine manière.
La conservation, hein, peut-être aussi.
C'est surtout le sel. Oui. Et alors, ce qui passe aussi, c'est que ça attire l'eau, un peu comme le sel. Et donc, s'il y a de l'eau, bah, c'est aussi... c'est pas de la bonne matière. Et donc, du coup, bah, voilà. Donc ça, c'est déjà une manière de remplacer, je dirais, les bons aliments par quelque chose qui coûte moins cher. Alors, il y a une autre astuce... Le fait de rajouter du sucre, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu manges beaucoup de sucre, plus tu manges du sucre et plus tu en as envie. On est un peu accro comme
oui,
ça.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui.
Eh bien, c'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas psychologique. Hein. Donc, ça se passe réellement au niveau de ton cerveau. Il y a des expériences qui ont été faites dans un laboratoire avec des rats. Et ils ont nourri les rats soit avec du sucre, soit avec de la cocaïne. Et on voit après, quand on demande aux rats, enfin, demande, façon de parler, oui, de faire un choix entre le sucre et la cocaïne, en fait, le rat va vers le sucre. Donc, il est plus attiré encore que la cocaïne. Donc, il y a une dépendance par rapport,
oui,
au sucre.
Et ça,
on voit quand on regarde comme ça au niveau des scanners, au niveau du cerveau, ça allume les mêmes zones que la cocaïne. Donc, le fait de rajouter du sucre dans les aliments, ben, ça te donne plus envie aussi de le racheter.
Donc c'est une addiction, alors, comme la drogue.
C'est une addiction. Et donc, quand on veut je dirais, arrêter le sucre, entre guillemets, on doit le considérer un petit peu comme une drogue et donc se sevrer. On doit y aller progressivement puisqu'on a un besoin, c'est tout à fait normal puisque c'est vraiment comme une drogue, on a vraiment un besoin par rapport au sucre. Quoi.
Mais alors celui qui veut, entre guillemets, se sevrer en somme du sucre, il faut en manger du sucre, mais pas trop. Est-ce qu'il n'a pas un manque? Est-ce qu'il n'a pas des conséquences ou quoi, comme quelqu'un qui veut qui se sevre de la drogue?
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va y aller progressivement, mais on va remplacer les mauvais sucres par des meilleurs. Et donc quand on parle de meilleurs sucres, eh bien on va choisir des aliments qui ont un indice glycémique beaucoup plus bas. Et donc c'est-à-dire plus ton indice glycémique est bas, et moins vite ton sucre va aller dans le sang et donc va avoir un impact sur ton insuline. Et donc on va privilégier plutôt ces glucides à faible indice glycémique plutôt que ceux qui ont un haut indice glycémique comme les sucres, tout ce qui est raffiné, farine blanche et tout ça. Et donc comme ça, progressivement, eh bien on va diminuer cette attirance par rapport au sucre.
Ah oui, d'accord.
Et donc faire le sport aussi. Enfin, on va utiliser d'autres moyens qui vont nous aider justement
donc
à compenser.
Donc c'est un peu ce que tu viens de dire ici. Capacité du sucre de stimuler la production de dopamine. Un messager chimique du cerveau impliqué dans la réponse à la récompense.
Tout à fait.
Alors la capacité du sucre de stimuler aussi l'activité des neurones qui fabriquent la sérotonine, notre antidépresseur naturel. Un neurotransmetteur qui stabilise nos humeurs, notre sommeil, nous fait penser positivement. Ça explique pourquoi, lors de stress déprime, nous plongeons sur le chocolat et les aliments sucrés.
Exactement. Et donc, quand on a un manque de sérotonine, eh bien,
qu'est-ce que la sérotonine ?
Donc, c'est un neurotransmetteur. Donc, c'est quelque chose qui est produit par ton cerveau et ça te permet justement de te calmer. Et en général, il est sécrété l'après-midi pour pouvoir te préparer pour la soirée, parce que la sérotonine, en fait, c'est le précurseur d'une autre hormone qui s'appelle la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et donc, tu vois que en sécrétant de la sérotonine, tu te calmes et tu as ce sentiment, donc je dirais aussi de plaisir et donc de sérénité. Et donc, quand tu n'es pas bien, que tu es fatigué, bardaf, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher justement du sucre pour compenser
oui.
ce manquement en sérotonine. Quoi.
D'accord. Alors,
Rapport à ça, il y a une très très chouette vidéo qui a été faite, une émission sur Arte, justement sur comment notre alimentation influence notre santé mentale. Elle explique justement toutes ces problématiques par rapport au sucre et notamment l'expérience avec les rats. Donc, si vous voulez éventuellement la visionner, vous pouvez aller sur ma page Facebook. J'ai fait un lien, donc ça vaut la peine. C'est vraiment une très très belle émission.
Donc, ta page Facebook, Patricia Bourguignon ou Patricia Bourguignon Nutrithérapeute?
Patricia Bourguignon Nutrithérapeute.
Voilà, parce qu'il y a deux.
Oui, oui.
Voilà. Alors, le sucre ajouté porte des dizaines de noms. Donc, on les a cités tantôt. Donc, le fructose, voilà. Le glucose, le siroglucose, voilà. Parce que les gens qui ne peuvent plus manger trop de sucre, qui sont diabétiques, ils prennent les petits sucres, là, comment est-ce qu'on appelle ça, là ?
Canderelle
et tous ces substituts du sucre. Est-ce que ça, c'est bon aussi, ou vaut mieux mettre un demi-sucre ou un quart de sucre ?
Alors, d'abord, il vaut mieux carrément arrêter le sucre, ça c'est une chose. Et donc tout ce qui est des alternatives comme ça au sucre, ben, c'est pas bon. Donc il y en a par exemple l'aspartame, on sait que ça a un impact sur la santé, donc on ne parlera pas de celui-là.
Non.
Mais même tous les autres, en fait ce qui se passe, c'est que ça nous garde cette addiction pour le sucre. Et donc souvent, quand on prend tous ces produits, d'abord c'est rarement dans des bons produits, hein. La plupart du temps c'est déjà pas dans les bons produits, et donc ça te donne le sentiment que tu peux en manger beaucoup. Et donc, du coup, bah, tu vas manger beaucoup de mauvais produits, hein, parce que tu te dis, c'est du 0% ou c'est du light. Et donc du coup, bah, voilà, ça te donne un petit peu cette impression d'en manger beaucoup. Et en plus, ça sature aussi les papilles gustatives. Et donc, tu vas être saturé tout de suite et tu vas moins apprécier les autres aliments. Et alors, pour certains, ça fait même monter l'insuline, alors que ça ne fait peut-être pas monter la glycémie, quoi.
D'accord.
Parmi les, je dirais, les, Ceux qui seraient peut-être le plus intéressant pour les diabétiques, ce serait la stevia. Donc ça provient d'une plante. Donc celui-là, ça pourrait être plus acceptable. Mais bon, dans la mesure du possible, essayons d'éviter de rajouter des sucres quand ce n'est pas nécessaire.
Et celui que tu viens de dire, la stevia, on peut trouver, la stevia, on peut trouver ça ou dans les pharmacies ou dans les grandes surfaces.
Dans les grandes surfaces.
Dans les grandes surfaces.
Oui, tout à fait, oui.
Donc voilà.
Et donc par rapport au nom, comme tu disais, ça c'est vraiment, et notamment pour les personnes qui font attention, c'est très très difficile de s'y retrouver parce que ça porte plein de noms. Donc je vous ai déjà donné un petit truc, quand il y a le mot ose, c'est du sucre. Mais tout ce qui est aussi avec du sirop, quand il est écrit sirop de quelque chose, c'est du sucre aussi. Donc il faut vraiment faire attention.
Oui, comme le sirop de glucose, fructose. Voilà. Là aussi le sirop de maïs et de blé, je ne savais pas.
Oui, donc en fait c'est des... c'est des, ils ont, on a fabriqué ça, on a industrialisé, donc extrait les glucides, je veux dire, du maïs, et notamment dans le sirop de glucose fructose, ça vient des États-Unis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu dans les années 80 une surproduction de maïs aux États-Unis. Et ils ont dû écouler ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont extrait ce sirop, ils en ont fait un sirop. Et Coca-Cola, qui avait besoin aussi de sucre, s'est dit, tiens, finalement, je rajouterai bien ça dedans parce qu'il coûte moins cher. Et donc c'est un petit peu parti de là où on a commencé à rajouter du sirop de glucose fructose, qui est un véritable poison. Donc si vous voyez ce mot-là, sirop de glucose fructose, vous fouillez et vous n'achetez surtout pas ces aliments-là.
D'accord.
Parce qu'ils ont vraiment un impact négatif sur la santé.
Notre fameux sirop de Liège.
Alors, le sirop de Liège, en fait, ça c'est
un... Je dis sirop de Liège parce que tout le monde connaît comme ça.
Oui, tout à fait. En fait, ça c'est une préparation, c'est une purée de
pommes, de pommes.
Alors, il y en a qui sont intéressants, notamment ceux qui sont sans sucre ajouté. Ça existe.
Ah, d'accord.
Donc, si vous avez l'opportunité, ben, choisissez plutôt celui-là que celui où on rajoute encore du sucre. Parce que, par défaut, avec la poire et la pomme, c'est déjà sucré.
Mais oui.
Et c'est suffisamment sucré.
Oui,
donc, voilà.
Alors,
bon, c'est le petit plus qu'on va se rajouter comme ça, bien entendu.
Ben oui,
on va pas se le mettre à la on va pas le manger à la cuillère.
Non plus. Hein. Alors, il y a le fameux miel qu'on conseille à manger. On peut en manger en hiver ou si vous toussez, une cuillère dans du lait chaud. Ou moi, je le mange comme ça, si j'ai mal la gorge. Je prends une cuillère à soupe et je mange une cuillère de sirop de miel.
Alors, en fait, le miel, on peut considérer ça comme un aliment santé parce qu'il contient...
C'est un antibiotique aussi.
Il a plein de propriétés intéressantes. Mais le miel, c'est du sucre.
Ah oui.
Donc, il ne faut pas non plus penser que vous pouvez mettre du miel dans votre café ou dans votre thé, tout ça, tous les jours, parce que vous rajoutez du sucre inutilement. Et donc, si vous devez sucrer une préparation, par exemple, vous faites une pâtisserie ou comme ça... Ben, vous pourriez rajouter du miel en plus petite quantité parce que c'est un côté intéressant. Mais moi, je garde le miel plus comme un aliment quand on a un rhume et tout ça. Et je le considère à ce moment-là un peu comme un médicament en quelque sorte.
Voilà, quand tousse ou quoi, ou un rhume, une bonne cuillère dans du lait chaud, ou alors manger comme ça. Et alors, ça m'arrive aussi de faire du poulet. Je sale, je poivre et je mets une couche de miel, pas une grosse couche épaisse, mais de miel sur mon poulet et ça caramélise. Ça ne reste pas sur le poulet, ça se met dans la sauce, mais ça prend un petit goût de miel.
Eh bien,
j'arrête.
Bon, voilà, mais en fait, en faisant ça, tu l'as bien dit toi-même, ça caramélise et ça, je vais y revenir après. Mais bon, le miel, comme je disais, c'est du sucre, donc tu as rajouté du sucre dans ta préparation culinaire, quoi.
Donc, oui.
Et donc, imaginons, donc, tu as ton poulet, tu as tes pommes de terre qui sont des féculents, et tu viens encore mettre du sucre en plus. Donc, c'est un peu dommage même aussi d'abîmer ton miel par la même occasion. Et alors, le fait de caraméliser, tu vas faire une réaction chimique qui va produire, c'est une réaction qu'on appelle la glycation, et tu vas produire des choses qui sont toxiques.
Mais ils ne se caramélisent pas. Oui. Je l'étends, je fais rôtir mon poulet, et puis il n'y a pas une croûte de miel sur mon poulet ou quoi, mais donne un goût à l'intérieur, ça donne un petit goût.
Oui, mais bon, voilà. Le fait de caraméliser, c'est un processus de glycation qu'on appelle ça, et donc voilà.
D'accord. Alors, que deviennent ces sucres une fois qu'ils sont avalés ?
Alors, Donc, j'ai déjà expliqué un petit peu tout à l'heure comment ça se passait au niveau de la digestion, mais quand ton glucose donc, rentre dans le sang, eh bien, il va être utilisé, puisque c'est pour fabriquer donc, de l'énergie, il va être utilisé par tes muscles, par toutes tes cellules pour fonctionner. Puis, à un moment donné, ben, tu as utilisé tout ce que tu avais besoin, hein, donc il faut bien le stocker quelque part. Eh bien, dans ce cas-là, il va aller d'abord se stocker dans le foie sous forme de glycogène. Et donc, c'est pour ça que les sportifs, eux, ce qu'ils font, c'est essayer justement d'avoir un stock de glycogène pour faire leur activité
sportive. Le glycogène,
c'est une forme de sucre un peu plus complexe, mais qui se met dans le foie.
D'accord.
Mais alors, quand on en a trop, eh bien, notre insuline, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va transformer donc, notre sucre et il va aller se stocker dans nos cellules, dans nos adipocytes, et donc ça devient de la graisse, donc c'est tout ce qu'on met autour.
Bon, Betty, elle ne va plus manger de sucre ni rien, parce que je crois que maintenant, je commence à comprendre pourquoi je grossis.
Voilà.
Parce que si ça s'accumule, les hanches, on ne te dit pas.
Et voilà, et donc on a toujours pensé que c'est parce qu'on mangeait des graisses qu'on grossissait, et donc pendant des années, on a banni ces graisses, et donc je propose peut-être une émission prochaine de pouvoir vous parler des graisses.
Oui, la fois prochaine, on vous parlera de l'inflammation, les bonnes et les mauvaises graisses.
Voilà, c'est l'occasion. Voilà.
C'est l'occasion. Et écoutez bien tous ces conseils, parce que bon, ça peut être utile et ça peut vous aider. Voilà.
Et alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on met un peu de sel en plus, parce que c'est meilleur, hein, tout ça. Quand on prépare nos plats. Donc, prenons l'exemple des frites. Donc, les frites, en fait, c'est quasi que du sucre, hein, puisque ta pomme de terre, elle a été cuite, et donc l'indice glycémique explose dans ces cas-là. Eh bien, le fait de rajouter du sel, en fait, on augmente le passage du glucose dans le sang. Donc, le sel a cette propriété-là, c'est de favoriser le passage dans le sang. Et donc, manger des choses qui sont à base de sucre ou de glucides, on va plutôt parler de glucides, et dans laquelle on met du sel, eh bien, ça va augmenter encore cette quantité.
Non, mais des frites en salé, c'est pas bon. Hein.
Oui, mais voilà, mais déjà les frites en soi.
Oui. Mais je
ce
voilà,
n'est pas l'alimentation.
Je ne parle pas spécialement pour moi, mais je parle des auditeurs qui pourraient nous écouter et qui disent chez eux, oh, mais des frites sans sel, c'est pas bon.
Oui,
hein.
Je prends l'exemple, mais. Disons que.
Oui, mais tu as raison, hein.
Voilà, si la personne doit faire très attention parce qu'elle est diabétique, ben, elle devra aussi diminuer son sel. Et parce que souvent, on n'y pense pas. On pense au sel, à l'hypertension, des choses comme ça. Mais le sel a un impact sur notre glycémie aussi.
Donc, d'accord.
Ça va.
Donc, s'il m'arrive quelque chose, je sais à qui je peux téléphoner qui me fera des petits menus maigrés pour maigrir comme ça. Alors, Patricia, j'ai une question à te poser. Tu nous dis d'arrêter le sucre. Mais pourquoi doit-on arrêter le sucre alors ?
Ben en fait, le sucre, ça, quand, je ne sais pas si tu te souviens, dans ton enfance, on disait ne mangez pas trop de sucre parce que tu vas avoir des caries.
Oui.
Donc ça, c'était un petit peu ce qu'on disait. Mais en fait, ça fait un petit peu la même chose qu'au niveau de tes caries, mais un petit peu partout dans ton corps. Et donc, l'excès de sucre, en fait, va être pro-inflammatoire et va aller attaquer en quelque sorte tous nos organes. Et donc, du coup, ben, voilà, ça a un impact, par exemple, sur les cancers, puisque, par exemple, les cancers, j'avais déjà expliqué la fois passée, ils adorent le sucre pour pouvoir se multiplier. Et donc, par rapport à ça, le sucre, en fait, une des pathologies que l'on connaît le plus à cause du sucre, ben, c'est le diabète.
Oui.
Donc, ça, c'est une maladie qui est connue. Mais il faut savoir que le diabète, avant d'être nommé, je dirais, diabète, on est au préalable prédiabétique. Donc, tu as une étape intermédiaire, ou en tout cas, qui précède ce diabète. Et là, c'est intéressant de pouvoir le diagnostiquer relativement tôt, parce que là, quand tu es dans cette phase-là, tu peux faire... C'est réversible. Donc, tu peux encore te guérir, contrairement au diabète, quand tu commences à te piquer avec des injections d'insuline.
C'est à vie.
Voilà. Et donc... La difficulté à ce moment-là par rapport pour le diabétique, ben, c'est surtout de faire très attention puisque, comme je disais, c'est difficile de se guérir du diabète parce que le diabète, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est une maladie qui est très grave en soi. Donc, on en meurt par rapport
oui, parce que
à ça.
Donc, on dit que l'OMS prévoit d'ici 2030 que le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Et on dit que le diabète tue une personne toutes les 6 secondes.
Tout à fait.
J'imaginais pas à ce point-là.
Donc, en fait, le diabète, c'est vraiment un tueur silencieux. Mais au-delà, je dirais même de la mort, en fait, ça a un impact aussi sur... je veux dire, sur pas mal d'organes, dont les yeux. Donc, c'est aussi le grand responsable de la cécité. Également, c'est une des premières causes d'amputation.
Oui, parce que si on se blesse, on dit souvent les orteils, les pieds, voilà. Une coupure qui s'affecte, ben, ça tourne en gangrène et voilà. on doit amputer.
Voilà, parce que en fait, à cause du sucre ou trop de sucre, tu vas être ce qu'on appelle immunodéprimé. Donc, en fait, quand tu prends du sucre, ton système immunitaire baisse. Et donc, tu imagines, quand tu donnes du sucre au matin aux enfants, ben, ça veut dire que dans les 5 à 6 heures qui suivent, son système immunitaire va baisser. Donc, on ne leur donne déjà pas toutes les chances pour aller à l'école.
Oui.
Par rapport à ça. Donc, c'est vraiment, il faut faire très, très attention, notamment donc, pour les diabétiques, c'est que la maladie ne s'aggrave. Et donc, c'est très important de pouvoir diagnostiquer cette phase avant, donc le pré-diabète, justement pour se dire, ok, maintenant il est temps de faire attention, de diminuer ton sucre et donc d'éviter d'aller vers le diabète.
Alors en parlant de diabète, on dit aussi que la deuxième cause, c'est les accidents cardiovasculaires.
Tout à fait, oui. Alors il y a aussi l'impact sur les reins, hein,
oui.
Donc, responsable des pathologies rénales. Donc voilà. Donc le diabète, c'est une maladie vraiment vraiment
qui
grave.
Peut attaquer tous les organes.
Voilà, et on ne se rend pas compte parce que c'est silencieux la plupart du temps. D'ailleurs, ça s'appelle c'est le diabète des personnes âgées qu'on disait dans le
oui,
temps,
oui.
Parce que ben voilà, tu avais bien vécu toute ta vie.
Oui.
Donc c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est que même les enfants maintenant, les adolescents deviennent déjà pré-diabétiques. Et donc, ça va être une catastrophe d'ici quelques années. Quoi.
Et alors, est-ce que l'hérédité a à voir aussi dans ce diabète ?
Donc, il y a une part d'hérédité, oui, mais c'est très faible. Je veux dire, c'est plus ton style de vie. L'hérédité est plus liée au diabète de type 1, qui est un autre type de diabète. Mais non, ici, c'est essentiellement souvent ton style de vie qui a un impact, justement, sur ta santé. Mais quand tu sais que... Les gens, parfois, qui viennent me voir, me disent « Ah oui, moi, je vois qu'ils sont pré-diabétiques sur base de leurs tests sanguins. » Je dis « Ben voilà, il faudrait diminuer les sucres. »« Ah, mais moi, je ne mange pas de sucre, j'aime pas. Enfin, je ne suis pas sucrée. Je suis plutôt salée, je ne suis pas sucrée. » Et alors, je leur donne comme petit exemple, hein, comme ça. Ben voilà, si vous mangez, par exemple, trois petites tranches de pain qui correspondent plus ou moins à 100 grammes, ben c'est comme si on mangeait 13 sucres. Donc, on mange pas très sucre, mais c'est l'équivalent 13 sucres. Quand ils mangent un petit dagobert le midi au boulot, ben parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la cantine ou tout ça, eh bien là, ils mangent 28 sucres.
T'imagines ?
Et puis, imaginons, pour certains, une fois par semaine, c'est parfois même plus, quand on mange un petit sachet de frites de 500 grammes, c'est comme si tu mangeais 30 sucres. 150 grammes de pâte, 15 sucres. La pizza... Une petite pizza moyenne, hein, 22 sucres et en plus plein de sel. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure que le sel augmentait le sucre,
oui.
Le passage du sucre, bah, tu t'imagines, tu comprends mieux qu'on puisse devenir diabétique sans manger de sucre, c'est-à-dire des pâtisseries ou des choses comme ça.
Voilà,
quoi.
Parce que
simplement manger.
On en retrouve dans les aliments.
Voilà, et voilà. Donc c'est important de comprendre ça, que ce n'est pas parce que vous ne mangez pas du sucre qui donne le goût sucré, que ça n'a pas on n'absorbe pas du sucre pour autant. Donc ici, il faut faire très attention.
Et alors, on dit aussi que les féculents peuvent être mis en accompagnement.
Donc voilà, donc souvent, quand on regarde les assiettes où tu vas au restaurant, ben, on a souvent un gros morceau de viande et énormément de féculents et très peu de légumes. Et donc là, il faut inverser la proportion sur les assiettes. Et donc, quand on va manger des féculents, ben, ils vont être plus... Là, comme accompagnement en petite quantité, c'est pas la partie principale. Je prends l'exemple des pâtes. Souvent, quand on parle des pâtes au saumon, ben, c'est une grosse assiette de pâtes avec des petits morceaux de saumon qu'on cherche, hein, comme ça, on essaie d'en trouver. Eh bien non, on va inverser ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va manger un beau morceau de saumon avec qu'on va accompagner par une petite poignée, je dirais, de pâtes, mais dans laquelle on va y mettre des brocolis, tous des légumes, justement pour apporter donc cette partie de légumes. Et donc, on peut toujours manger des pâtes, mais on ne va pas manger une assiette de pâtes. Ce n'est pas le plat principal.
Ah oui.
Donc, il y a moyen de bien manger sans pour autant... je dirais, se priver.
Le oui, parce que Baudet rigole, parce qu'en été, mais je fais souvent des pâtes froides. Donc, je mets des poivrons, je mets des tomates, je mets du gruyère en morceaux, du jambon en morceaux, de la mayonnaise. Et alors, on se fait une bonne... On mange bien avec ça. C'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines. Mais au bout d'un temps...
Le côté positif de ce que tu viens me dire, c'est que tes pâtes, elles sont refroidies.
Ah oui.
Donc, ça, c'est intéressant aussi quand on veut préparer des pâtes. D'abord, on les cuit al dente. Donc, le fait de les cuire al dente, on diminue l'indice glycémique. Et le fait que tes pâtes, et c'est la même chose pour les pommes de terre, quand ça refroidit, eh bien, ça fait aussi diminuer l'indice glycémique. Donc, c'est déjà plus intéressant. Et donc, tu m'as dit que tu rajoutais des légumes. Donc, c'est très bien déjà. Mmh. Alors, si tu dois rajouter de la mayonnaise, fais une petite mayonnaise maison avec à base d'huile de colza, mais ça, on en parlera la fois prochaine. Donc, il y a moyen de se faire, je dirais, un bon plat de pâtes en été, comme tu l'as proposé, en mettant plein de légumes. Et donc, tu diminues ta proportion.
Ah, d'accord, je ne savais pas qu'en refroidissant, voilà.
Voilà. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui permettent quand même de se faire plaisir.
Ben oui, il faut de temps en temps aussi, hein. Ouais. Alors, un autre problème grave lié au sucre, surtout au fructose et au sirop de glucose fructose, c'est, bon, ça ouvre l'appétit, ça, tu l'as dit, plus on va manger de sucre, plus on va avoir faim, on va avoir envie de sucre.
Tout à fait. Et donc, particulièrement avec le fructose, c'est un... Ce qui se passe avec le fructose, de nouveau, les industriels ont utilisé le côté santé du sucre des fruits, en disant, ben oui, fructose, c'est le sucre des fruits. Donc, en prenant du fructose, c'est mieux pour la santé. Mais quand on parle du sucre des fruits, c'est du sucre dans le fruit. On est bien d'accord. Et dans fruit, il y a les fibres, il y a les antioxydants. En fait, il y a toutes les choses intéressantes dans le fruit. Mais le fait de rajouter, d'extraire le sucre du fruit, de le concentrer et de le rajouter, ça, c'est vraiment très mauvais. Et l'exemple que je te disais tout à l'heure avec le maïs, le sirop de glucose fructose, ben, cela, c'est un véritable poison parce qu'il va être digéré différemment par rapport au glucose. Et donc, lui, ce qui se passe, il va aller se stocker essentiellement dans le foie. Et donc, plus tu manges du glucose fructose, et plus tu vas engraisser ton foie.
Et oui, donc, c'est ce qu'on appelle un foie gras.
Exactement. Et donc, si on l'appelle maintenant de manière un peu plus scientifique,
oui.
En fait, si tu veux, c'est une stéatose hépatique non alcoolique. Donc, ça veut dire...
Le NASH.
Voilà. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
Mais tu m'en avais parlé l'autre fois et je ne savais pas. J'étais voir même sur Google ou quoi, mais je n'ai pas trouvé.
Donc, en fait, voilà. Donc, c'est un foie gras. Et donc, tu t'imagines que quand tu as ça... chez toi, ça veut dire que ton foie ne fonctionne plus bien.
Ah non.
Et tu peux avoir des cirrhoses hépatiques sans avoir bu d'alcool, parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on parle qu'on a une cirrhose hépatique.
Oui, c'est l'alcool tout de suite qui vient
à
l'esprit.
On pense à l'alcool, on se dit, mais voilà, non, le maintenant, on peut avoir des cirrhoses. Pas maintenant, je veux dire, ça a toujours existé, mais on parle de plus en plus de ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça touche tout le monde, et particulièrement les enfants. Donc, c'est devenu l'alcool des enfants, quoi, le sucre.
Oui.
Et il faut savoir, hein, un enfant, quand tu... Si tu... Il y avait des chiffres comme ça qui disaient qu'un enfant, entre 6 mois jusqu'à ses 17 ans, il a eu l'occasion de voir jusjà 60 à 70 000 pubs qui faisaient la promotion du sucre.
Mais ça les incite, leur petit cerveau, ils travaillent.
Voilà, je veux dire, c'est très bien fait, les pubs. Hein. L'objectif, c'est de te faire acheter et tout ça.
Nous, on peut encore dire, voilà, oh oui, encore une pub, ceci. Mais les enfants, voilà, tout ce qu'on leur dit, mais ça rentre dans leur cerveau et ils y croient.
Voilà, donc c'est vraiment... de nouveau, c'est pour augmenter cette addiction. Et donc là, c'est un véritable danger. Donc, on sait déjà chez les adolescents qu'on va avoir des problèmes par rapport au diabète. Mais le deuxième problème qui arrive aujourd'hui, c'est ce fameux NASH, hein, donc qui va amener à des cirrhoses hépatiques chez tous ces adolescents et plus tard, quand ils seront adultes.
Ben c'est triste tout ça.
Oui, oui, donc c'est pour ça que c'est pas à négliger cette histoire de sucre, il faut vraiment faire très attention. Quoi.
Oui, d'accord. Alors, on va un petit peu parler maintenant, parce que bon, c'est le moment, il va bientôt arriver, le grand Saint-Nicolas. Alors, que conseilles-tu pour faire une belle que Saint-Nicolas fasse une belle assiette sans trop de sucre?
Donc voilà, donc Saint-Nicolas, si tu nous entends...
Bah, j'espère qu'il nous entend.
Voilà, donc pense un peu à tous nos petits-enfants et même les grands-enfants, hein, donc, ouais. Pour leur apporter des choses qui sont plutôt santé. Donc voilà. Mais peut-être avant même de parler de l'assiette, je pense que quand on pense à Saint-Nicolas, on fait sa petite liste.
Hein, oui.
Et donc les parents sont là pour aider à faire les listes. Et donc je pense qu'il faut d'abord être raisonnable par rapport à ça et de pas mettre une grosse assiette. Donc on peut dire à Saint-Nicolas, ben voilà, Saint-Nicolas, apporte-moi éventuellement, c'est peut-être l'occasion si on n'a pas de boîte à tartines. De dire, bah, amener les bonnes collations dans une boîte à tartines. Et donc, c'est déjà un peu moins important en termes de quantité. Et donc, on va dire aussi à Saint-Nicolas d'apporter des bonnes choses. Et ces bonnes choses, bah, c'est d'abord les mandarines. Donc, amener des fruits. Hein. Donc, Saint-Nicolas, n'oublie pas donc, les mandarines, parce que ça, les mandarines, donc, ça apporte...
Je crois qu'il n'oublie pas, c'est les mandarines. Non, ça, c'est parce qu'en général, il y en a quand même assez bien.
Voilà. Alors, il y a aussi des petites choses qui sont intéressantes pour les collations. Hein. Donc, c'est les noix, les noisettes, tout ce qui est dattes, figues, abricots aussi, c'est assez intéressant. Donc, ça peut remplacer donc, les moins bonnes collations.
Il faut faire attention aussi aux allergies avec ça.
Voilà, oui, ça, bien sûr.
Mais bon, donc, les parents le savent.
Voilà, les parents le savent. Et donc, il suffit de l'écrire peut-être dans la lettre à Saint-Nicolas.
Voilà,
Saint-Nicolas, fais attention par rapport à ça. Alors, on peut aussi... Saint-Nicolas, il pourrait aussi cuisiner, pourquoi pas.
Ben oui.
Hein,
ben
tant
oui.
Qu'à faire.
Ben, il a le temps toute l'année.
Voilà. Alors, on peut lui dire de faire des bonnes petites préparations pour les collations.
Ben oui.
Et donc, si on doit faire des préparations, ben, Saint-Nicolas, à ce moment-là, diminue la quantité de sucre dans tes préparations, ou bien peut-être, y a des choses qui sont intéressantes, par lesquelles on ne pense pas toujours, c'est remplacer les farines classiques par notamment des haricots rouges. Il y a une chouette recette, d'ailleurs, que je vais vous donner, pour faire un brownies au chocolat, à base de haricots rouges, et on ne voit pas du tout la différence. C'est vraiment délicieux. Et bien donc, pour que Saint-Nicolas puisse faire cette recette, je te propose de la mettre sur votre site Facebook.
Oui, il n'y a pas de souci, tu peux la mettre.
Voilà. Donc je vous donnerai cette recette-là, comme ça Saint-Nicolas pourra faire cette préparation. Maintenant, c'est vrai que s'il veut acheter lui-même dans les magasins certains biscuits, bah, qu'il fasse très attention quand même aux étiquettes. Parce que plus l'étiquette est longue, c'est-à-dire que s'il n'y a pas vraiment de bonnes choses, et donc on va d'abord réduire les quantités, et puis il doit se mettre dans la tête que s'il faisait lui-même la préparation, il doit se dire qu'est-ce que je mettrais dans ma préparation.
Oui, parce que lui, il est bien portant aussi. Hein.
Voilà, alors du coup, on réfléchit en voyant les étiquettes, de se dire, ok, ça, je n'aurais pas mis dedans. Donc voilà, ça, c'est déjà une petite idée. Et puis, tant qu'on y est, on peut prendre des choses plutôt bio, hein, aussi, pourquoi pas, pour que ce soit encore plus sain. Mais bio ne veut pas dire santé, quoi.
Donc, non.
Voilà, donc c'est vraiment important, c'est de réduire ses quantités de sucre. Et il pourrait faire son petit spéculoos, il pourrait aussi, s'il peut apporter du chocolat, prendre plutôt du chocolat noir au date 74%. Donc, voilà, il a la possibilité soit de préparer lui-même, ou alors d'acheter des choses qui sont avec moins de sucre.
Je croyais que le spéculoos, il y avait quand même assez bien de sucre dedans, mais je vois que non.
Et si tu le fais toi-même, tu vas réduire. Et puis alors, ce qui se passe, c'est que dans les épices du spéculoos, il y a des épices qui sont vraiment très, très intéressantes, dont la cannelle.
Oui, on le sent très fort.
Et la cannelle, en fait, c'est un épice qui est intéressante, qui permet de baisser ton indice glycémique. Donc, elle est hypoglycémiante.
Ah, d'accord. D'accord. Alors, voilà, Patricia, il y a encore tellement de choses à dire sur cette émission.
Eh bien, si les gens, enfin, si les personnes veulent avoir plus d'informations, s'ils vont sur mon site internet, donc www.pb-nutrition.be, j'ai des articles qui reprennent justement tout ce que je viens d'expliquer sur les glucides, sur l'indice glycémique. Donc, ils peuvent le télécharger sans aucun problème.
Voilà. Donc, n'oubliez pas la prochaine émission La santé dans l'assiette. Ce sera le 28 janvier à 20h. Alors, on vous parlera de l'inflammation, donc les bonnes et les mauvaises graisses. Eh bien, Patricia, un tout grand merci à toi.
Avec un grand plaisir.
Parce que ça me fait super plaisir. Et on n'oublie pas quand même la rediffusion de cette émission samedi à 10h. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Patricia.
Au revoir.
Au revoir à toutes et au revoir à tous.